Salut, c'est Odile.
Salut, c'est Olivier.
Salut, c'est Nathalie.
À la bonne heure, le mag Région Sud-Est.
Des musiques, des chroniques, des invités.
De midi 10 à 13h.
À la bonne heure.
Quoi ?
À la bonne heure.
Sur Fréquence Mistral, bien sûr. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir l'écrivain François Bonne et le journaliste Quentin Raverdy qui ont posé leurs valises dans le Briançonnais pour un temps. L'un nous vient de Marseille, l'autre de Rome et ils se sont réunis ici dans le cadre d'une résidence d'écriture pour glaner des histoires de vie des habitants du territoire, des histoires vraies comme ils les appellent. C'est un projet qui a débuté il y a quelques années déjà, ce n'est pas la première fois qu'ils viennent dans nos vallées et c'est un projet qui a plusieurs ambitions dont un livre et qui s'inscrit dans une démarche plus ample. Nous y reviendrons dans cette émission avec les deux intéressés et leur attaché de production qui sont déjà tous les trois avec nous, François Bonne, Quentin Raverdy et Julie Krutz. Alors, écrivain, journaliste, attaché de production, c'est une présentation un peu rapide par rapport à vos parcours et vos projets. Est-ce que je peux vous demander de nous en dire un peu plus sur vous ? Je ne sais pas qui veut commencer.
Eh ben, je peux commencer moi. Du coup, je suis, comme tu le disais, je suis journaliste. Je travaille à Rome depuis maintenant 6 ans, donc je suis correspondant pour la presse francophone. Donc, ça veut dire que je couvre toute l'actualité de l'Italie. Avant ça, j'étais pour 4 années à Istanbul et toujours dans ce rôle de correspondant de presse. Et voilà, je me suis ajouté à ce projet dont on va parler en rencontrant François à Rome.
Alors François, peut-être ?
Oui, alors moi je suis écrivain depuis 2009 et j'ai été invité à Marseille en résidence, et d'abord à Manosque d'ailleurs, où j'ai fréquenté Fréquence Mistral moult fois. On a créé avec Marseille une sorte de projet qui s'appelait « Histoire vraie de Méditerranée », et ensuite, ce qui est devenu un livre en 2013, qui s'appelle « La lune dans le puits », qui est un recueil d'histoires vraies de Méditerranée. Puis en 2015, on a créé l'association. Et à partir de là, j'ai été invité d'abord à retourner dans tous les pays de Méditerranée où j'avais fait la première collecte d'histoires, en particulier au Liban, où j'ai fait un autre livre, etc. Et puis aussi sur différents territoires, hors de la Méditerranée parfois, en Vendée par exemple, où ça a donné un livre, toujours chez Vertical à l'époque, qui s'appelle « Une vie de Gérard en Occident », basé sur des histoires vraies de Vendéens. Et évidemment sur la région PACA, autour de Bannon, Forcalquier, dans les Alpes de Haute-Provence ensuite. Et puis, il y a 3 ans, on s'est retrouvés avec Julie, avec le Théâtre du Briançonnais, pour ce projet de collecte d'histoires vraies des habitants du Briançonnais.
Et c'est là que ça arrive jusqu'à nous et on pourra revenir dans le détail sur cette démarche. Et Julie Krutz, alors ?
Sur ce projet, je suis attachée de production, donc je gère la partie administrative et puis l'organisation concrète sur le terrain. Je suis briançonnaise depuis 1991, donc j'ai pour ce projet quelques facilités, on va dire, à me renseigner François et Quentin pour leur proposer des lieux qui seraient adaptés à leur projet artistique. Voilà, et en plus de cet aspect administratif, il y a l'aspect aussi financier, recherche de subventions, et puis un peu de communication pour faire connaître le projet.
Et sur le projet lié au Briançonnais en particulier ?
C'est ça, exclusivement, parce que c'est un projet que François a mené dans plusieurs autres territoires, mais moi, ma fonction se limite au territoire. Alors, on parle du Briançonnais, mais c'est plutôt du Briançonnais et de la Haute-Vallée de Suse. C'est important que les personnes qui nous écoutent sachent qu'il y a une dimension transfrontalière qui est très marquée. Difficile d'imaginer parler de faire le portrait des habitants sans parler de cet aspect transfrontalier avec la frontière qui est si proche. It's dreamy weather, we're on. You waved your crooked wand along an icy pond with a frozen moon. A murder of silhouette crows I saw
and the tears on my face, and the skates on the pond, they spell Alice. I disappear in your name, but you must wait for me somewhere across the sea. There's the wreck of a ship. Your hair is like meadow grass on the tide, and the raindrops on my window, and the ice in my drink. Baby, all I can think of
Nous sommes aujourd'hui dans le magazine du Midi avec l'écrivain François Bonne, le journaliste Quentin Raverdy et Julie Krutz, attachés de production, qui sont présents pendant un mois dans le Briançonnais pour recueillir les histoires vraies des Alpes. Nous avons entendu une musique de Tom Waits, Alice. C'est une musique que vous avez choisie parce que c'est un hommage apparemment. Est-ce qu'on peut en parler ?
Ouais, on peut évidemment. En fait, on était il y a deux jours au soir à faire une veillée dans le refuge tout neuf du Clos des Vaches, et on a été très très bien accueilli par Dimitri, Elliot, enfin toute l'équipe, et aussi par Alice qui fait partie de l'équipe, qui était très sympa. Et il se trouve que ça m'a rappelé cette chanson, qui est certainement une de mes chansons préférées, Alice de Tom Waits. Et il finit, je ne sais pas si tu l'avais laissé jusqu'au bout, mais
j'ai coupé.
Finit par « And by tracing it twice, I fell through the ice of Alice ». C'est-à-dire que c'est l'histoire d'un type qui fait du patin à glace et qui écrit le nom d'Alice sur la glace. Et quand il repasse sur la trace des lettres, eh bien, la glace se casse. C'est comme ça que ça finit. C'est un amour tragique, quoi.
Alors, on va repasser maintenant, passer surtout à votre projet, Histoire vraie des Alpes. On le disait, c'est un projet qui a des antécédents, une démarche que tu as commencé, François, auparavant, en Méditerranée. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de ce projet, de cette démarche ?
Oui, en fait, j'ai la chance d'avoir une maman qui est prof d'anglais. Enfin, qui était prof d'anglais, maintenant elle est à la retraite. Et elle avait dans sa bibliothèque un livre magnifique qui s'appelle True Tales of American Life, des contes vrais des habitants des États-Unis à la fin du XXe siècle. Et c'est l'écrivain Paul Auster qui avait mené ce projet aux États-Unis. Et quand j'ai été invité en résidence tous ces mois à Manosque, puis pendant 5 mois à la Friche Belle de Mai à Marseille, il cherchait des projets pour Marseille, capitale européenne de la culture, et je leur ai dit, écoutez, on pourrait faire la même chose que ce qu'a fait Paul Auster, c'est-à-dire tenter de collecter des histoires vraies des habitants, mais de, non pas de tous les États-Unis, mais de toute la Méditerranée. Mais alors, c'est évidemment beaucoup plus compliqué à faire, puisque évidemment, il n'y a pas de langue qui unifie tous ces pays, qu'ils sont tous à moitié en guerre les uns contre les autres, avec toutes les guérites et autres barbelés qui forment leurs frontières, tous les morts qu'il y a en mer en permanence, etc., etc. C'est une région qui souffre énormément. Mais je me suis proposé de faire le tour de cette Méditerranée, et environ un mois par pays, passer du temps avec les habitants, à faire des veillées, à les rencontrer, exactement ce qu'on est en train de faire là avec Quentin, avec Julie sur le territoire, c'est-à-dire à trouver des espaces de convivialité pour se rencontrer en groupe, pour se reconnaître, pour aussi que les gens se rencontrent et qu'ils se découvrent à travers leurs histoires vraies, et puis aussi en tête-à-tête, évidemment, on ne dit pas la même chose en tête-à-tête, etc. Et pendant un an et demi, moi, je suis parti au micro. Je savais pas bien faire au début. J'ai appris sur le tas. Et j'ai appris la radio aussi, voilà, puisqu'on en a fait des podcasts pour Arte Radio. Je vous conseille en particulier une histoire marseillaise de notre région, ici, puisque ça fait 15 ans que je suis à Marseille. Et c'est une des premières histoires qu'on avait publiées sur Arte Radio, qui s'appelle La bouillabaisse infernale, qui est un peu...
Que j'ai écouté en préparation, effectivement, assez incroyable.
Voilà, qui est une histoire de bravoure, Jean qui habitait le Luberon et qui se réinstalle à Marseille. Et le père, pour fêter ça, va cuisiner une bouillabaisse et inviter sa fille et son beau-fils. Mais ça va partir en vrille, quoi. Mais voilà, je dis rien aux auditeurs, mais ils peuvent aller l'écouter en ligne sur Arte Radio. Ça leur donnera une idée de qu'est-ce que c'est qu'une histoire vraie.
Et ces histoires que tu les recueillais en anglais, alors comment vous parliez dans ces pays?
C'était dans toutes les langues, mais les gens m'aidaient. Alors j'étais tout seul, mais quand c'était en grec ou quand c'était dans... Moi je parle un peu italien, je parle espagnol, anglais, français. Et donc quand c'était dans les langues que je ne comprenais pas, y avait quelqu'un qui m'expliquait. J'enregistrais quand même dans la langue de la personne pour avoir la... Et ensuite, on a fait traduire certaines de ces histoires, surtout celles que j'avais envie d'utiliser pour le livre. Dans le livre La Lune dans le Puits, donc, qui est paru en 2013... et qui est paru en poche en 2017, et dans lequel j'ai pu rajouter aussi des histoires de Gaza, parce que deux fois, ils m'avaient empêché d'entrer, en fait, en 2012, donc j'avais pas pu y aller. J'avais pu y aller en 2014, donc je voulais absolument qu'il y ait des histoires de Gaza dans le livre. Pour parler de la Méditerranée, on peut pas ne pas parler de Gaza. On ne pouvait pas déjà, il y a plus de 10 ans, oublier Gaza. Et voilà, il y a environ 180 histoires dans le livre, plus les miennes. C'est-à-dire que je raconte mes propres histoires vraies. Il me semblait que c'était la moindre des choses. Après toutes les histoires qui m'ont été confiées. Et de la même manière, quand on fait les soirées ici, que ce soit à La Vachette, à Puy-Saint-André, à Villars, etc., on rencontre les gens, on raconte aussi nos histoires, on les écoute. C'est un échange. Et c'est comme ça qu'on a déjà maintenant plus de 200 histoires sur le territoire, et qu'on a commencé aussi collecter du côté du Val de Suse pour tenter d'avoir un portrait complexe de qui sont les habitants des Alpes à travers deux territoires transfrontaliers, quoi, hein, le Val de Suse et le Briançonnais, comme exemple en fait de qui sont les Alpins.
Oui, puisque c'est donc cette démarche que tu as établie pendant ce voyage en Méditerranée, tu le reproduis sur d'autres territoires, donc chez nous, et on va se concentrer là-dessus, mais tu as également fait d'autres territoires auparavant, et tu es peut-être encore en train de travailler sur d'autres territoires?
Oui, on travaille en ce moment avec des camarades sardes, de Sassari, donc du nord de la Sardaigne, sur un projet, donc Storie Vere della Sardegna, que vous pouvez retrouver d'ailleurs sur le site, hein, qui s'appelle donc histoire vraie de la Sardaigne en italien.com. Ils ont un Instagram aussi, et ils collectent d'ailleurs en sarde aussi, ils collectent en italien, en algherese, qui est une sorte de catalan du nord de la Sardaigne. Ils sont toute une équipe, ils ont créé une association. De la même manière, il y a en ce moment une collecte qui a commencé à Zadar en Croatie, puisque c'est une des choses que j'avais laissé un peu de côté quand j'ai fait mon tour de Méditerranée, c'était toute la côte adriatique. Je n'avais pas pu faire Slovénie, Croatie, Bosnie, Monténégro et Albanie. Et donc, on essaie de se rattraper là, on a lancé le projet il y a un mois à Zadar. C'est une association qui s'appelle Njegozemska, et c'est la maison du livre en croate, et qui va se charger de... J'y retourne en octobre, de collecter des histoires vraies des îles de Croatie.
Donc ce n'est pas forcément toi qui es tout le temps sur le territoire?
Non, pas du tout. On fonctionne sous la forme d'un collectif. Il y a en ce moment un projet aussi de pièces de théâtre à partir d'histoires vraies de Gaza qui est mené par Sylvie Denois, la présidente de l'association à Marseille. Donc notre association Histoire vraie de Méditerranée, on fonctionne vraiment comme un collectif. On va avoir tout un gros travail aussi avec les bibliothèques de Marseille à partir de 2026. De collecte dans les différents quartiers autour des bibliothèques avec elles pour faire venir le public, etc. Donc c'est un projet qui se décline en fonction de comment les gens sur le territoire ont envie de se l'accaparer. C'est ça qui me semble assez aussi agréable, c'est que la manière dont on a pu travailler les deux premières années avec Julie, c'est que elle s'occupait des médiathèques du réseau et donc elle a pu aussi utiliser ce projet par rapport à ce qu'elle avait à faire sur le territoire, à faire le lien avec tous les bénévoles, tout le réseau de bénévoles de ces médiathèques de village.
Et justement, comment en es-tu arrivé à t'intéresser à ce territoire des Hautes-Alpes, du Briançonnais ?
Eh ben c'est toujours un peu le hasard de la vie, mais ce projet Histoire vraie de Méditerranée, ça commence par le hasard. Le hasard, d'ailleurs, qui est un terme arabe qui vient de zar, qui est le dé. Donc, si on jette le dé, et de temps en temps, j'arrive dans le Briançonnais, de temps en temps, je me disperse vers la Vendée, de temps en temps, je vais en Croatie, de temps en temps. Voilà. C'est en fonction des envies, quoi, des désirs. Là, il se trouve que ça a été avec le théâtre du Briançonnais et les médiathèques qu'on a pu créer ce projet. C'était un désir de Julie en particulier.
Et Julie, comment tu as reçu ce projet et comment tu as accompagné le développement de ce projet sur le territoire ?
Alors, l'initiative, elle était partagée, comme tu disais, à la fois du théâtre du Briançonnais et des bibliothécaires du coin. On a eu le plaisir d'accueillir à la fois François Beaune et Jacques Souvent, qui ont œuvré pendant un hiver chez nous. Donc, il y a des veillées qui ont été organisées. Et puis, à l'issue de ce temps de résidence, il y a eu une grande veillée au théâtre du Briançonnais qui a rassemblé un paquet de monde. On a été obligés de fermer les portes à un moment donné, refuser du monde. Ça a été un véritable crève-cœur, mais c'était une très belle soirée et je peux comprendre que ça ait eu autant de succès. On a fait un grand banquet. Une partie des histoires collectées ont été re-racontées de vive voix, d'autres diffusées parce qu'elles avaient été, on va dire, montées et puis travaillées par Jacques Souvent et François Beaune. Il y avait eu un projet aussi avec la RAM 05, la radio locale, qui a permis de conserver 8 de ces histoires. Je vous encourage, si vous avez envie d'en écouter là tout de suite maintenant, aller du coup sur une radio concurrente, mais c'est une autre radio locale. Et
on n'est pas en concurrence.
Voilà, parfait. Du coup, d'aller sur le site de la RAM et de taper Histoire vraie du Briançonnais, vous verrez un petit peu. Voilà, et puis ensuite, François m'a demandé de réfléchir au potentiel d'aller un petit peu plus loin dans cette démarche et de continuer au-delà de la résidence. Dans un premier temps, je me suis posé la question de savoir comment on allait pouvoir recycler en quelque sorte une démarche qu'on avait déjà éprouvée sur le territoire. Je me suis posé la question de savoir si ça en valait la peine. Ça m'avait beaucoup plu, mais je me suis dit, est-ce que sur le long terme, c'est quelque chose qui va continuer à mobiliser des gens ? Et il se trouve qu'effectivement, ça continue à bien fonctionner. L'idée, c'est que petit à petit, François arrive à se faire un réseau sur le terrain. Donc, il retrouve des personnes qui lui conseillent d'aller voir d'autres personnes et comme ça le projet s'enrichit et puis finalement les veillées ou les collectes c'est jamais la même chose, ça dépend bien sûr des personnes qui sont là et à chaque fois c'est des moments suspendus qui sont très beaux donc c'est comme ça que je me suis dit allez on se lance, on va travailler ensemble. Moi, je me suis, avec François, un peu forcée, autoproclamée, attachée de production. L'idée, c'était d'avoir un soutien parce que l'aspect administratif est quand même assez important. On a eu la première année le soutien de la Bibliothèque départementale des Hautes-Alpes et du ministère de la Culture à travers le contrat territoire lecture. Et puis en 2024 et là en 2025, le soutien encore une fois du ministère de la Culture à travers un dispositif qui s'appelle l'été culturel, rouvrir le monde, voilà, à travers la DRAC PACA. Donc c'est vrai que sans ces partenaires financiers, sans ce soutien administratif, le projet aurait du mal à se poursuivre parce que voilà, et ben c'est comme tout, il faut pouvoir faire tourner la roue, voilà.
Et une nouveauté aussi dans l'évolution de ce projet, c'est donc Quentin, tu étais greffé donc sur ce territoire en particulier au projet. Pourquoi cette collaboration ensemble avec des compétences différentes, journalistes, écrivains ?
Alors, je pense que au-delà, on a eu cette rencontre romaine avec François et je pense qu'il a J'espère qu'il a vu aussi dans mon travail de correspondant, donc qui est très lié à l'Italie, mais il a aussi vu peut-être mon intérêt pour les territoires, mon intérêt aussi pour les histoires des gens que j'essaye de faire transparaître dans des papiers qui peuvent être des fois des papiers très nationaux, des papiers très sérieux, mais qui avaient quand même aussi cette curiosité et peut-être cette envie un peu de faire un pas de côté du métier classique de journaliste. Et je pense que François a vu aussi que je pouvais l'aider d'abord sur la partie italienne pour des questions très techniques de langue, de prise de contact. Et donc, c'est aussi, au début, je pense que c'était un peu comme ça que c'est né, un peu de pouvoir l'aider. Et puis après, ce à quoi il a tenu, et je le remercie aussi, c'est de m'amener aussi dans le Briançonnais, c'est-à-dire de ne pas, pas être en permanence le journaliste en Italie et du coup de venir dans ce territoire que je ne connaissais pas du tout. Je ne le connaissais que de mon oncle qui a fait son service militaire ici, mais c'est-à-dire que voilà, c'était très limité. C'était vraiment, pour moi, c'était une zone inconnue. Je connais bien mieux l'Italie maintenant que toute cette partie de la France. Et donc, je pense que François aussi voulait me faire participer à ce côté briançonnais et aussi amener quelque chose d'autre, peut-être une manière de rencontrer les gens différentes, des relances aussi, on le voit dans les veillées, on n'a pas du tout la même... on ne relance pas, on ne donne pas le change sur les mêmes choses, et je pense que ça nous aide aussi dans ce qu'on arrive à recevoir des gens sur le territoire.
Oui, c'est extrêmement intéressant d'avoir le point de vue d'un journaliste qui, lui, est dans une autre forme de recherche sur le territoire. Et puis après, il y avait cette dimension avec Julie. Il y avait l'Italie, quoi. Le fait que si on voulait poursuivre le projet, c'est quelque chose qui motivait aussi beaucoup Julie, c'était de faire ce projet avec l'Italie, en italien, et de faire ça tous ensemble sur ce coin de montagne qui est à ces deux peuples de ces deux pays, quoi. Et donc, c'était intéressant d'avoir quelqu'un qui connaît vraiment l'Italie de l'intérieur, qui maîtrise la langue parfaitement et qui peut avoir un regard avisé sur les histoires qu'on allait glaner côté Val di Susa. Parce que mon italien étant ce qu'il est, celui de Julie est bien meilleur, mais on n'était pas au même niveau que Quentin. Moi je suis ravi aussi, la proposition, ça a été aussi lié à une demande de Sophie Boisard, une éditrice de L'Alpe, la revue L'Alpe, et aussi de chez Glénat, qui m'a proposé d'écrire un livre sur qui sont les habitants aujourd'hui des Alpes, mais qui tenait, elle aussi, elle a tout à fait, qui tenait à ce que ça se passe côté italien comme côté français. Et je lui ai dit, ce qui me plairait, c'est de co-écrire ce livre. C'est la première fois que je co-écris un livre, et j'ai de plus en plus envie d'écrire collectivement. De toute façon, je trouve que c'est une belle chose, en fait, de partager des projets littéraires. Et donc, Quentin, comme on a une vraie affinité, une vraie amitié, ça me semblait la personne idoine pour faire ce projet. Et de même que ce projet ne serait impossible si on n'avait pas Julie pour former le triangle d'or.
Aussi, je me permets quelques remerciements. Je voudrais saluer Elodie et toute son équipe sur la commune de Monnetier-les-Bains. Ouais. C'est vrai que c'est des personnes qui étaient là dès le démarrage et qui continuent à être à nos côtés. Ça fait chaud au cœur. Tu parlais, François, de Dimitri, de Alice au refuge du Clos des Vaches. Moi, je voudrais faire un gros bisou à Estelle. Parce que voilà, ouais. Estelle, elle est aussi partie prenante dans ce beau refuge. Je voudrais embrasser aussi Claudine et Estelle à la librairie La Page Clarée. Remercier vraiment chaleureusement la commune de Névaches aussi, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu mettre en place ce projet cette année. Un petit coucou à Mario au camping des Alberts. Voilà, Mario, on va se retrouver bientôt. Il y a une veillée au camping des Alberts lundi de la semaine prochaine. Remercier Maud au bar Le Break, Nicolas au refuge du Chardonnay, Damien au Boulodrome, et faire un gros bisou à toutes les collègues bibliothécaires et surtout à celles côté italien. Je pense à Bardonecchia et à Cesana. Et voilà, Bardonecchia, ils ont eu une grosse crue dévastatrice récemment et elles ont été très touchées. Donc voilà, un petit message de soutien pour elles.
Un projet qui est réuni du monde.
Ouais, il faut qu'on remercie évidemment aussi Pierre Leroy qui nous loge ces 3 semaines chez lui. Il nous a laissé sa maison pour aller faire du cyclisme jusqu'en Vendée. Qu'il est d'origine vendéenne, c'était l'ancien maire de Puy-Saint-André et quelqu'un qui œuvre beaucoup sur le territoire. Et voilà, et déjà l'année dernière, il était partie prenante avec la commune de Puy-Saint-André et Estelle, la maire de Puy-Saint-André et Claudine déjà de Névache. Donc c'est vraiment des amitiés fortes qu'on retrouve chaque année. Voilà, on est particulièrement reconnaissant d'être dans cette magnifique maison.
Oui, moi j'en profite aussi, je reviens sur Claudine. Oui, voilà, c'est le moment de remercier tout le monde, mais moi je reviens sur Claudine et sa famille qui en plus m'ont fait le grand plaisir de m'accueillir chez eux avec leur fille, de passer du temps avec eux, de découvrir Névache. Je pense que c'était la manière la plus privilégiée, la plus douce aussi de découvrir cet endroit et de m'avoir accueilli un peu comme un colocataire pendant une semaine. C'était voilà, je suis aussi conscient de cette chance qu'on a eue, de cette manière de découvrir aussi le territoire.
Les gens nous adoptent, quoi. C'est d'ailleurs, on a un projet adopteunauteur.com. On en reparlera une prochaine émission.
Très bien, un sujet à venir. En tout cas, effectivement, c'est un projet qui vous amène vraiment à la rencontre du territoire. Avant de rentrer plus dans le détail de votre démarche, de comment vous œuvrez vraiment avec ces personnes, une petite pause musicale que vous avez choisie. On parlait du côté italien, donc je vous propose. Alors, vous allez mieux le prononcer que moi, de Rino Gaetano, Ma il cielo è sempre più blu. Moi, je ne parle pas du tout italien.
Ça passe.
Non, ça passe.
Bien, très bien.
Est-ce que vous voulez nous raconter l'histoire avant ou après l'avoir écouté?
On peut la faire avant. Alors déjà, on a voulu mettre une chanson italienne pour rappeler aussi le côté transnational de notre projet. C'était aussi une manière détournée de remercier, vu qu'on ne sait pas toujours bien le faire de vive voix, mais remercier aussi Julie, qui on connaît sa passion pour l'Italie et l'italien. Et du coup, on a voulu lui envoyer ce petit message musical. Et c'est une chanson qui est vraiment intéressante parce qu'elle... Elle raconte toute l'ironie, tous les contrastes de l'Italie entre ceux du sud, du nord, qui veulent gagner de l'argent, les gens de les autres. Et c'est une chanson qui est un grand tube, évidemment, en Italie, et qui est un tube de plus en plus politique, parce que beaucoup de partis en Italie ont cherché à la capter. C'est devenu vraiment une musique de meeting politique, surtout par la nouvelle majorité, le gouvernement Meloni. Donc c'est une chanson pour laquelle les gens bataillent un peu, parce que elle parle en fait beaucoup de l'Italie et de ses contradictions.
Eh bien, on écoute ça tout de suite. Enfin, un extrait, parce qu'on n'aura pas le temps de l'écouter en entière.
Lotta, che ho fatto la spia, na 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 na
Et dans le magazine du Midi aujourd'hui, nous parlons d'un projet, Les Histoires Vraies des Alpes, mené par l'écrivain François Bonne et le journaliste Quentin Raverdy. Nous sommes également avec leur attaché de production Julie Krutz. Et donc, nous avons parlé de la démarche, des personnes qui vous accompagnent avec tous ces remerciements. Et maintenant, j'aimerais quand même qu'on rentre dans le vif du sujet de vos actions. Vous avez mené des veillées, des ateliers d'écriture. Pourquoi, on peut revenir sur chacun de ces deux activités, pourquoi à travers ces activités-là en particulier, vous allez à la rencontre des gens ?
Peut-être on commence par exemple sur les veillées. Donc là, l'idée, c'est qu'on a fait deux veillées dans des refuges de haute montagne. Donc là, l'idée, c'est aussi un peu aussi de nous mettre à l'épreuve. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on marche, on fait cette ascension pour rejoindre le lieu et aussi se mettre dans cette ambiance et de rencontrer des gens qui, des fois, sont des gens de passage, qui ne connaissaient pas forcément la région, d'autres qui sont un peu amoureux, qui reviennent. On en a rencontré beaucoup comme ça. Et puis aussi de parler avec les gens qui tiennent ces refuges, qui sont souvent des Briançonnais, qui connaissent aussi le territoire. Donc avec cette manière, cette veillée, que c'est une pratique que François fait depuis des années, mais avec le côté veillée, c'est, on le répète à chaque fois, l'idée de un peu un retour, de se retrouver comme si on se retrouvait autour du feu, de se raconter des histoires, de se confier. Même aussi, on invite les gens qui sont souvent d'un même groupe, en fait, à raconter aussi cette histoire, peut-être plus intime, et aussi peut-être que les gens se découvrent entre eux. Là, on avait un grand groupe de 25 personnes originaires de Lyon, et peut-être qu'ils ont aussi appris des choses les uns des autres, des choses plus intimes. Donc ça, c'est aussi le côté de la veillée, côté très, très intime. Et on a fait ça aussi au break. On a fait ça, on en a encore d'autres de prévus. Donc ça, voilà, c'est l'exercice de la veillée auquel on tient beaucoup.
Le principe, c'est finalement d'essayer de comprendre le territoire, non pas en partant a priori de choses qu'on sait déjà, mais en se remettant complètement en question, en se disant on ne sait rien du territoire, on est complètement candide, innocent, on arrive, et de partir de ce que les gens vont choisir librement de nous confier. C'est-à-dire de repenser cet imaginaire collectif qu'est les Alpes, mais à partir de ce que les gens vont nous dire des Alpes, ce qu'ils vont aller puiser dans leur mémoire, dans leurs souvenirs, dans leur mythologie personnelle. C'est ça une histoire vraie, hein, c'est une anecdote marquante de nos vies. Et donc, à partir de là, se poser la question, mais pourquoi ils nous ont dit ça? Qu'est-ce que c'est? Tirer les fils, aller chercher. Et puis, ça va être aussi prétexte à des rencontres. Moi, je me rappelle, quand on était au refuge du Clos des Vaches, par exemple, on rencontre Didier qui nous raconte une première histoire. Et puis ensuite, on va monter le col du Chardonnay le matin avec lui, puisqu'il se trouve qu'on allait au même endroit. Et là, il nous parle d'autre chose. Il nous parle de son arrière-arrière-grand-père de Misouan, qui était protestant et qui s'était réfugié dans les montagnes et qui, lui, n'avait pas eu droit... Donc, il devait partir faire les guerres d'Italie. Et il y avait la conscription, etc. Et sa famille s'était cotisée pour lui payer quelqu'un pour aller à sa place. Mais ce quelqu'un-là avait déserté, et donc il avait quand même dû y aller. Il avait fait toutes les guerres d'Italie. Et quand il est revenu, sa famille lui a dit « Écoute, on a déjà dépensé tout ton héritage. T'as plus ta place au village, il faut que tu partes. » Et c'est comme ça que l'arrière-arrière-grand-père de Didier est allé s'embaucher, l'exode rural, il est allé s'embaucher à Saint-Étienne, et qu'il est devenu coiffeur, apprenti coiffeur, qu'il a rencontré sa femme, qui était la fille du coiffeur, qu'il est devenu coiffeur à Saint-Étienne, et que Didier, aujourd'hui, n'est plus à Saint-Étienne, il est à Lyon, mais c'est comme ça que Didier explique sa vie, c'est que il y avait cet arrière-arrière-grand-père protestant qui a dû faire la campagne d'Italie et qui a été privé de son héritage du fait de ce type qui a déserté. Voilà. Et voilà, c'est ça une histoire vraie, en fait. Et on ne sait jamais quand est-ce qu'elles arrivent. On a des très belles enveillées, puis on en a entre toutes ces choses qu'on organise et qui nous nourrissent pour essayer de repenser le territoire.
Et comment, est-ce que vous avez des méthodes à force de le faire qui marchent d'aider les personnes à se sentir à l'aise et à oser aussi parler, ouvrir la parole?
Bah alors, je peux en parler parce que moi, je suis aussi un peu dans ce processus d'apprentissage auprès de François. Je ne suis pas encore expert en histoire vraie, donc c'est-à-dire quelque chose qui travaille. Donc, il y a aussi des manières de mettre les gens à l'aise. François l'a dit aussi, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye de donner le change. Donc, on n'hésite pas à raconter des histoires que potentiellement... Moi, je me suis retrouvé aussi à parler de moi, chose que je fais assez rarement. Et aussi grâce à cette... un peu assez veillé... On essaye aussi de leur proposer des fois quand souvent les gens ont l'impression de ne pas avoir d'histoire à nous raconter. C'est comme ils nous disent, ben non, moi j'ai une vie assez banale, il m'est jamais rien arrivé. En fait, on fait ça en plusieurs temps, c'est-à-dire qu'on commence par une histoire, peut-être le premier souvenir. François demande souvent ça, le premier souvenir qui vous vient, et après en fait de fil en aiguille, nous aussi on rebondit, on trouve. En fait, on leur dit, mais ça, en fait, c'est une histoire.
Moi, je pense que la technique de l'entretien journalistique t'aide beaucoup aussi. Et c'est, en fait, demander à quelqu'un qui nous confie son histoire vraie, c'est d'abord et avant tout se mettre à l'écoute. C'est même la définition du manifeste surréaliste de Breton, c'était qu'est-ce que c'est que la poésie ? C'est se mettre en curiosité. C'est donc faire cette démarche d'être en curiosité du monde. Et là, de la même manière, chacun a, on doit en être convaincu, chacun a des histoires vraies à partager. Et donc, nous, on se met en curiosité, on se met en étonnement, et on doit leur dire aux gens, ils doivent comprendre qu'on est particulièrement intéressé de tout ce qu'ils ont conservé en eux, et que c'est à partir de ça qu'on peut écrire le monde aujourd'hui. Et voilà, c'est cette idée-là de tout bêtement de faire poésie en fait à partir des histoires vraies des habitants, en se disant que chaque personne qui peuple ce territoire a potentiellement des histoires à nous raconter.
Alors j'enchaîne en parlant d'écriture, justement, vous faites aussi des ateliers d'écriture, il nous reste seulement 3 minutes avant la fin de cette émission, on n'aura pas le temps de le détailler, mais c'est une autre méthode que vous avez utilisée cette fois-ci. J'aimerais quand même qu'on ait un mot sur le débouché de ce projet. Il y a ce livre dont tu parlais, François, avec les éditions Glénat. Il y aura aussi des podcasts, enfin, est-ce qu'il y aura d'autres formats que tu as peut-être déjà réalisés ?
Alors il y a la possibilité de... J'avais fait moi un premier LSD... donc de la série documentaire sur France Culture, et il y a la possibilité de refaire un LSD après la sortie du livre qui serait un portrait des habitants des Alpes, mais pour l'instant il n'y a rien de voilà, c'est un projet en cours qu'on est en train de voir, donc c'est pas certain. Mais il y avait cette idée-là, puisque c'était un peu la même démarche sur un autre territoire qui était le territoire des différentes ZUP de France, des banlieues populaires. Mais le livre, donc, chez Glénat, normalement, enfin, même c'est sûr, ils nous l'ont imposé comme date, et je trouve que c'est une bonne chose. Il sortira en mars 2027, donc on a encore un an pour l'écrire, et on va être encore un an sur les territoires du Val de Suse et du Briançonnais, à continuer à glaner des histoires jusqu'au bout, et à tenter de finaliser un livre qui sera le résultat à la fois de cette collecte et de ce qu'on aura pu en comprendre. Et on essaiera de le finir à l'été 26, c'est-à-dire dans un an. Donc on en est finalement au début de ce projet de livre.
Et en même temps, ça arrive assez vite, j'imagine, pour vous. Et alors, où est-ce qu'on peut suivre l'avancée du projet ?
Alors, on a une page Facebook qu'on a lancée pour cette résidence qui s'appelle Histoire vraie des Alpes. Donc là, on peut suivre un peu les premières avancées. On donne aussi les rendez-vous, les prochains rendez-vous là, d'ici début août. Et suivre aussi la page de François aussi, qui va lui continuer tout aussi en France pour ses projets. Et de toute façon, tous ces projets-là sont liés. Donc voilà.
Et il y a d'autres dates aussi sur le territoire. De toute façon, on peut retrouver, j'imagine, sur la page Facebook, les dates des ateliers d'écriture des prochaines veillées.
Tout à fait. Et la soirée de clôture, qui est le 1er août, où on va restituer un certain nombre des histoires qui nous ont le plus marqué de ces 3 semaines, ce sera à Névache, au Bon Coin, au restaurant Le Bon Coin, le soir, à partir de 18h30. Et là, à la fois, on va pouvoir nous re-raconter les histoires et écouter de nouvelles histoires que le public pourra... C'est toujours à chaque fois des soirées participatives, comme c'est la soirée qu'on avait faite au Théâtre du Briançonnais, où il y avait eu tant de monde. Ouais.
Eh bien, merci à tous les trois. Merci encore d'être venus, François Bonne, Quentin Raverdy et Julie Krutz. Donc, vous êtes encore présents jusqu'au 1er août. Et merci à toutes et tous pour votre écoute. C'est déjà la fin de ce magazine. Belle journée à vous.
La Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicille. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe, trempe ta plume, oh mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture. Note ce qu'il faudrait qu'il advint de mon corps, lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord que sur un seul point, la rupture. Mon âme aura pris son vol à l'horizon vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson, celle des titis, des grisettes. Que vers le sol natal mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée, terminus en gare de Sept. Caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf. Vulgairement parlant, il est plein comme un œuf. Et d'ici que quelqu'un en sorte, il risque de se faire tard. Et je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. Au bord de la mer, à deux pas des flots bleus, creuser si c'est possible un petit trou moelleux, une bonne petite niche. Auprès de mes amis d'enfance, les dauphins, le long de cette grève où le sable est si fin, sur la plage de la Corniche. C'est une plage où même à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux. Ou quand un bateau fait naufrage, le capitaine crie, je suis le maître à bord, sauve qui peut le vin et le pastis d'abord, chacun sa bonbonne et courage. Et c'est là que jadis, à 15 ans révolus, à l'âge où s'amuser tout seul ne suffit plus, je connus la prime amourette. Auprès d'une sirène, une femme poisson, je reçus de l'amour la première leçon, avaler la première arête. Déférence gardée envers Paul Valéry, moi l'humble troubadour sur lui je renchéris, le bon maître me le pardonne. Et qu'au moins si ces vers valent mieux que les miens, mon cimetière soit plus marin que le sien, et n'en déplaise aux autochtones. Cette tombe en sandwich entre le ciel et l'eau ne donnera pas une ombre triste au tableau, mais un charme,
indéfinissable. Les peigneuses s'en serviront de paravent pour changer de tenue et les petits enfants liront chouette un château de sable. Est-ce trop demandé sur mon petit lopin? Plantez, je vous en prie, une espèce de pin, pin parasol de préférence, qui saura prémunir contre l'insolation les bons amis venus faire sur ma concession d'affectueuse révérence. Venant d'Espagne et tantôt d'Italie, tout chargé de parfums, de musique jolie, le Mistral et la Tramontane. Sur mon dernier sommeil berceront les échos de Villanelle un jour de Fandango, de Tarentelle, de Sardane. Qu'en prenant ma butte en guise d'oreiller, une ondine viendra gentiment sommeiller, avec moins que rien de costume. J'en demande pardon par avance à Jésus, si l'ombre de ma croix s'y couche un peu dessus, pour un petit bonheur posthume. Pauvre roi Pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu gisant au Panthéon, pauvre cendre de conséquences. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances.